dans l'entrée dans le numérique, enfin, ils sont entrés dans le numérique. Là, je vais vous présenter un exemple aujourd'hui d'un secteur de collège qui a investi les espaces numériques de travail et d'une école qui a investi l'usage des tablettes dans le cadre d'une expérimentation portée par la Direction générale de l'enseignement scolaire. Alors, quelle continuité école-maison autour d'un usage raisonné des tablettes et des ENT? Moi, j'aurais bien rajouté pédagogique quelque part. Et assez instinctivement, j'ai écrit « Quelle continuité pédagogique ?» Ça doit être le côté un peu école. Je dois vous avouer que cette question m'a amenée à aller rencontrer à nouveau des élèves directement. Et j'y suis allée la semaine dernière pour être sûre de pouvoir y répondre correctement parce que, évidemment, par ma position, j'ai tendance à être côté école. Alors, je vais essayer d'être le plus juste possible, c'est-à-dire je vais essayer de relayer, et je vous le dirai au moment où je vais relayer la parole des élèves, et puis des enfants, je dirais. Je vais essayer aussi de vous présenter ce qui s'est passé, mais je vais étayer d'exemples. Donc, en 2010, sur l'Académie de Reims, il y a eu les premières expérimentations espaces numériques de travail. Et dans ces expérimentations, nous avons plusieurs écoles qui ont essayé un espace numérique de travail avec une ligne donnée par notre inspecteur qui était d'investir les espaces numériques de travail par les usages pédagogiques. C'est-à-dire que ces espaces n'ont pas servi qu'à un usage asynchrone école-maison, mais servaient en classe et servent aujourd'hui en classe. Ça veut dire que les enseignants préparent des contenus dans les espaces des élèves qui sont utilisés d'abord en classe. Alors du coup, vous allez me dire, mais quel est le rapport école-maison? Mais en fait, c'est par là qu'est né le lien école-maison. Alors ensuite, en 2012, on est entré dans le déploiement parce que les élus, les équipes enseignantes et les parents ont tous été demandeurs que ça se généralise, et ça s'est généralisé volontairement sur un espace défini, c'était l'espace du secteur de collège. C'est-à-dire tous les élus ont financé le même espace pour les écoles élémentaires et maternelles autour de 11 écoles qui dépendent du même collège. Pourtant, le collège n'a pas le même espace numérique de travail, mais ce qu'ils voulaient, c'était faire se réseauter les écoles à l'intérieur de cet espace. Donc, quand on a eu nos premières expérimentations, on a diffusé les pratiques des écoles qui avaient expérimenté. C'était positif et le déploiement s'est fait autour de la diffusion de ces expériences. En fait, l'objectif, c'était réellement de créer une communauté autour de l'espace numérique de travail. Alors, du point de vue de l'élève, on a des usages en classe qui se sont faits assez rapidement, puisqu'on était dans des écoles numériques rurales, c'est-à-dire qu'il y avait des classes mobiles dans ces écoles. Donc, on pouvait avoir un petit groupe d'élèves qui bénéficiaient de contenus personnalisés via l'ENT. Et ensuite, évidemment, l'usage en classe conditionnait une autonomie de connexion des élèves. C'est-à-dire que les élèves apprenaient à se connecter par eux-mêmes. Et assez naturellement, ils avaient envie de se reconnecter à la maison. Et il y avait l'idée derrière de donner du travail personnel. Et les enseignants ont donné du travail personnel à l'élève. C'est-à-dire qu'il y avait du temps. Je ne parle pas là de devoir, mais je parle de travail personnel. Il y avait du temps en classe. Il y avait des projets qui pouvaient être faits sur la semaine ou sur 15 jours. Pour que l'élève conduise une recherche ou quelque chose, par exemple, je vais vous en citer une de la semaine dernière, une recherche sur une planète avec un bloc créé dans l'espace numérique de travail et un élève qui devait faire quelque chose sur une planète. Et pour ça, c'est lui qui était contributeur d'un blog et qui allait le présenter aux autres élèves, le tout validé par l'enseignant. Mais pour conduire ce travail, l'élève est libre. Il peut le faire dans le temps de classe, et s'il a envie de poursuivre, il peut le poursuivre à la maison, il fait. On part vraiment d'un principe pas évident, c'est qu'on part de l'envie d'apprendre et de l'envie de revenir. Et en fait, on s'est aperçu, sur cet espace numérique de travail, que les pics de connexion étaient entre 9h et 11h le matin, ça c'est logique, puisqu'on l'utilisait en classe, et entre 17h et 19h. Alors, du côté des parents, du côté des parents, quand on a ouvert l'espace numérique de travail, on l'a ouvert à la rentrée. Ça, c'est stratégique parce qu'il y a les réunions de rentrée, qu'on peut leur expliquer les enjeux autour de l'espace numérique de travail. Et on peut leur expliquer également comment se connecter. Parce que ceux qui ont le plus de mal à se connecter à ce type d'espace, ce ne sont pas les élèves, mais ce sont les parents. Les parents, ils ont eux-mêmes leur identifiant, ils ont leur propre accès, qui est différent de leurs enfants. Mais bien souvent, ce sont les enfants qui ont appris aux parents à aller sur l'espace numérique de travail. On leur a expliqué tout de suite l'intérêt pédagogique. Et surtout, il y avait une discussion vraiment pédagogique avec les parents. Chaque enseignant expliquait ce qu'il comptait faire de ça, c'est-à-dire et éduquer au numérique, mais également leur permettre de prolonger les apprentissages et leur permettre de communiquer directement avec l'enseignant. C'est-à-dire que chaque enseignant a partagé les enjeux autour du déploiement de l'espace numérique de travail avec ses parents d'élèves. Ça a été verbalisé. Alors finalement, on a proposé des parcours aux élèves. Alors, selon les enseignants, c'est plus ou moins affiné. On a des enseignants qui créent des vrais parcours. On est sur un territoire où il y a de la pédagogie inversée, des choses, des pratiques pédagogiques qui sont assez évoluées. Et en créant ces parcours-là, on a renforcé l'autonomie. Et le travail personnel, ça a vraiment renforcé l'autonomie et aussi l'initiative. Ça veut dire que l'élève, il est initiateur du moment où il va le faire. Ensuite, je crois que ça rend visible ce qu'on fait en classe à la maison. C'est ce qui intéresse les parents. Lorsqu'on le demande aux parents, très clairement, ils nous parlent de visibilité. Et en maternelle, c'est très fort. C'est-à-dire qu'en maternelle, on va créer le lien. Les enseignants de maternelle me disent, ça y est, on est vraiment différent d'une garderie. C'est-à-dire que là, les parents comprennent ce qui se passe, pourquoi on le fait. Il y a beaucoup de langage sur les ENT. Ensuite, l'implication des élèves est vraiment différente, puisque ce sont eux qui sont initiateurs du travail. Je vais vous donner un exemple d'une enfant de CE1 qui rentre chez elle, qui en histoire a travaillé sur... Alors, elle est en CE1, CE2, donc ils ont travaillé sur Louis XIV, le château de Versailles, et la maîtresse a juste dit, je vous mets en lien... Le château de Versailles, vous pouvez aller le visiter, parce que les sites sont très fournis là-dessus. Et cette enfant de CE1, elle rentre le soir chez elle et elle dit à sa mère, il faut que j'aille visiter le château de Versailles. C'est-à-dire qu'elle avait envie de prolonger. Alors c'est la maman qui m'a raconté ça, parce que ça l'a un peu déroutée. Et elle a vu sa fille se connecter sur l'ENT, cliquer sur le lien, parce que là, on l'a bien choisi, il est propre, il n'y a pas de souci. Et sa fille, en fait, elle avait envie de prolonger la séance. Et elle a prolongé la séance le soir. Ce ne sont pas des devoirs, c'est pas obligatoire. C'est informel, j'ai bien aimé tout à l'heure. Voilà, c'est informel peut-être là. Seulement, sans l'espace numérique de travail, la maman, elle ne savait pas qu'il y avait ce site-là et que c'était possible de prolonger. Et surtout, comme elle ne savait pas ce qui s'était passé en journée en classe, il y avait peu de risques de le faire. On voit bien que là, ça permet de guider. Alors, moi, je voulais revenir un petit peu sur le mythe autour des espaces numériques de travail, parce qu'au début, lorsqu'on a travaillé sur les espaces numériques de travail, on avait le mythe d'une communication, que ça favorisait la communication. Mais finalement, en école élémentaire et en école maternelle, la communication, on en a déjà beaucoup avec les parents. Bon, d'accord, on a moins de cahiers de liaison, mais enfin, bon, ça ne change pas grand-chose. Qu'on écrit sur le cahier de liaison, on écrit sur l'espace numérique de travail. Est-ce qu'il y avait un besoin en communication? Je ne sais pas. Ça rapproche les familles. Elles n'étaient pas forcément très loin, les familles, et ça crée une relation différente, voire meilleure. Enfin, voilà, il y avait des mythes autour de ça. Ben, dans la réalité, je dirais que c'est d'abord un outil de classe, ça sert en classe. Ça permet de personnaliser les apprentissages, c'est ouvert à la maison, donc ça permet, de ramener l'école à la maison, mais pas de manière obligatoire. Ça permet à un élève de pouvoir écrire à son enseignant quand il veut, à un parent d'écrire à son enseignant quand il veut, et de retrouver le cadre. Alors, j'entends qu'il y a quelques réflexions. Ça permet à un élève ou un enseignant, à un élève ou un parent d'écrire à l'enseignant quand il veut, mais l'enseignant n'est pas obligé de répondre immédiatement. Mais ça, ce sont des règles, voilà, ce sont des règles qui sont fixées avec les enseignants. Finalement, il y a une continuité. Moi, j'ai réfléchi au terme continuité, je me suis dit, ben, il y a une continuité spatiale. L'élève retrouve sa classe, quand il veut. Donc j'écris continuité éducative parce qu'il y a un aspect que je n'ai pas traité jusqu'ici. Il y a un aspect que je n'ai pas traité, donc je vous parlais des mails. On s'est rendu compte qu'un élève ne savait pas écrire à son enseignant. Un élève qui arrive dans cette école-là, il se demande comment il va rédiger un mini-mail. Il se demande sur quel ton il doit le mettre. Enfin, c'est assez intéressant. Mais il y a une discussion qui arrive très vite avec les parents, parce qu'il y a des... Les mails sont ouverts entre les élèves. Hein. Tous les élèves d'une classe peuvent s'écrire entre eux. Vous imaginez bien que c'est la première chose qu'ils investissent. Mais très rapidement, il y a une discussion autour de éduquer au numérique. Et là j'ai osé écrire le mot coéducation. Parce que les problèmes que peuvent rencontrer dans différentes situations, par exemple des élèves qui s'insulteraient, ça c'est arrivé, on a même eu une usurpation d'identité en CE2, ça crée une situation problème qui va être traitée en classe. Et ça, c'est intéressant. Ça va donner à l'enseignant le moyen d'éduquer au numérique. Tu as pris l'identité de ta voisine, quelles sont les conséquences? Et puis, par exemple, on se rend compte qu'ils pensent qu'Internet, c'est magique. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'à partir du moment où ils ont éteint l'ordinateur, tout est effacé. J'ai envoyé un mail d'insulte à mon copain derrière. Si je l'ai supprimé dans mes mails envoyés, c'est bon, il est supprimé. Et donc là, on va pouvoir lui prouver que non. Non, non, ça reste. C'est dans les mails reçus de ton copain de derrière. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de l'apprendre à cet âge-là. On se rend compte que sur ce secteur-là, il y a une chute terrible des profils Facebook. Vous savez, les élèves avaient des profils dès l'âge de 10-11 ans. Parce que maintenant, là, ils ont un moyen de communication entre eux et ça se fluidifie assez naturellement. Sauf que là, on peut les accompagner. Et de la même manière, les parents sont entrés dans le jeu dès le départ, dès la réunion de rentrée. Les enseignants préviennent les parents qu'on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Alors, les parents fixent des règles différentes d'une famille à l'autre. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Madame Blomann, c'est normal. Et on respecte les règles fixées à la maison. On a quelques parents qui refusent l'accès à l'ENT. Souvent, dans un premier temps et dans un second temps, ils le laissent. Ça dépend vraiment des familles. Alors, ce que font les enseignants et ce qu'ils se sont mis à faire assez rapidement, ce sont des petites vidéos qui permettent de revoir le cours. Ou d'avoir en tout cas la partie connaissance. Donc ça sert souvent dans des pratiques de pédagogie inversée, mais ça sert aussi pour des enseignants qui n'ont pas de pratique de pédagogie inversée, mais qui souhaitent juste que l'enfant puisse retrouver à la maison la technique opératoire ou la leçon de grammaire. Et il y a un papa qui m'a dit la semaine dernière, un père d'élève qui m'a dit... Nous utilisons, c'est un père d'élèves très éclairé, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de souci culturel. Il a trois garçons et il m'a dit ça me permet de retrouver le bon vocabulaire. C'est-à-dire s'il a besoin de réexpliquer à ses enfants, il va retrouver le vocabulaire de l'enseignant. C'est pour ça que je dis que ça rend l'école visible. Ça permet de lire l'école, de lire ce qui se passe dans l'école. Alors, je ne sais pas si on peut qualifier l'ENT d'outil mobile. D'outil mobile, mais c'est un outil. Alors, dans ce contexte-là, est arrivé dans une école très rurale de ce secteur de collège. Donc, je vous dis dans ce contexte-là parce qu'il y avait déjà chez l'enseignant la pratique dont je viens de vous parler, parcours d'apprentissage, ENT. Et cet enseignant, il reçoit... une tablette par élève de CM2. Et il se dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce qu'il avait une classe mobile, il était école numérique rurale. Et alors, cet enseignant, il a déjà eu les premiers TBI il y a plus de 10 ans, donc c'est un enseignant innovant. Il s'est dit, eh ben moi, je vais leur donner une tablette et ils vont la ramener à la maison. Et il leur a donné la tablette dans l'idée du cartable numérique, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'ENT, ce n'est pas un problème de connexion. 98% des parents sur ce secteur-là ont un ordinateur et une connexion. Le problème, c'est que l'ordinateur n'est pas toujours disponible pour l'enfant. C'est-à-dire que toute la famille est sur le même ordinateur avec tous les usages qu'on a maintenant. Donc, il donne la tablette avec retour à la maison dans l'idée de, comme ça, quand l'enfant voudra aller sur l'ENT, il pourra y aller et puis il pourra avoir des usages qui lui sont propres. Alors, donc, on est dans le cartable numérique. En même temps, ces enfants-là, ils habitent à 20 km à la ronde autour de l'école. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir quelque chose de plus succinct. Et pour lui, l'ENT, c'est le catalyseur de contenu. Ça veut dire que les enfants vont pouvoir aller tout de suite trouver les contenus qu'ils veulent au même endroit. Alors ça, c'était l'intention. C'était l'intention. Après, il y a les usages. Alors lui, en classe, il a utilisé les tablettes comme créateur de contenu. C'est-à-dire que jusqu'ici, je vous parle d'un enseignant qui nourrit l'ENT. Et bien là, je vous parle d'élèves qui nourrissent l'ENT. C'est-à-dire qu'avec une tablette, on filme très facilement, on va prendre en photo très facilement les choses. Et donc, évidemment, il l'utilise dans le cadre de l'ENT, mais il les utilise également pour les applications, comme outils ressources. Ils ont tous un dictionnaire sur la tablette et ils y vont très régulièrement. Ils m'ont dit que c'était une des ressources qu'ils utilisaient le plus. En fait, ils m'ont expliqué que quand les dictionnaires étaient en fond de classe, je ne sais pas comment vous décrire ça, je ne vais pas vous dire qu'ils étaient un petit peu feignants, mais s'ils avaient besoin d'un renseignement, ils n'y allaient pas automatiquement. La tablette, elle reste sur la table en classe, et là, ils y vont très facilement, très naturellement. Ils ne sont pas exclusivement sur la tablette, mais c'est vraiment un support relais. Et puis, la rétroaction. Alors, la rétroaction... On pourrait dire feedback, mais moi j'aime bien rétroaction parce que c'est au Canada ils utilisent le terme rétroaction. J'ai une collègue qui utilise ça et j'aime bien. La tablette, il l'emmène partout. Donc dans cette école, là j'y suis allée la semaine dernière, le maître avait fait retourner un art de terre. Il leur a fait faire chacun. Il a découpé l'art en mètres carrés. Avec des ficelles, hein, on est dans le pratique, hein, là, et il l'avait vu avant en géométrie, et donc il y avait un enfant avec une tablette, et lui avait pour objectif de faire le reportage de tout ça, parce qu'ils allaient retravailler après en géométrie ce qu'ils avaient fait directement dans le jardin de l'école. Et donc ça permet, et ça le permet aussi en EPS, d'avoir des moments d'observation à distance des choses. Et ça, c'est intéressant. Il l'utilise beaucoup. Il l'utilisait déjà avec son TBI, où très rapidement, au TBI, on va réafficher la leçon d'avant. Mais là, la tablette, individuellement, ils peuvent vivre ça, de se décaler un petit peu de ce qu'ils ont fait et d'en reparler à distance. Et puis, il a un petit boîtier Apple TV qui lui permet de tout de suite afficher ce qu'il y a sur une tablette au TBI. Ça, c'est pour la pratique de classe. À la maison. Alors là, je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit la semaine dernière, après plus d'un an d'usage. Alors déjà, ils ne voient vraiment plus rien de génial dans la tablette. Hein. Ça fait partie, c'est comme un livre. Quoi. Enfin, vous voyez, on n'est plus dans l'effet nouveauté du tout. Ils utilisent massivement l'ENT. Massivement parce qu'ils vont y retrouver ce qu'ils y ont produit et ils aiment le montrer. C'est-à-dire, s'ils ont produit une petite vidéo... Ils vont facilement revenir dessus. J'ai vu par exemple des élèves de CE1 faire un PowerPoint papier. La maîtresse leur a dit « Prouvez-moi que vous savez trouver le verbe. » Ils ont fait des petites affiches sur du papier. Il y en a un qui filmait et deux élèves qui présentaient et qui commentaient les affiches. C'est la preuve de l'apprentissage. Et pour être fiers de ce qu'ils ont appris, évidemment, on le met sur l'ENT et on va pouvoir aller le revoir. Et là, on peut facilement, la tablette, elle simplifie tout ça. Donc, eux aussi, ils utilisent la rétroaction à la maison. Du coup, je me suis dit, ah, il y en a peut-être plus que ce qu'on pense de la rétroaction. Il y a quand même eu un petit souci, c'est que la tablette, quand elle est arrivée dans les familles, elle a fortement intéressé les frères et sœurs. Même très fortement, et j'ose le dire, elle a aussi intéressé les parents. Donc le maître a trouvé un stratagème, il les code, et il change le code tous les 15 jours. Parce que c'est un piège dans lequel il ne fallait pas tomber, sinon la disponibilité, on ne l'avait plus. Les parents ont fixé des règles, et ils en ont parlé en réunion avec l'enseignant, et ils en parlent encore régulièrement, des règles tablettes. Donc, les élèves m'ont dit qu'ils avaient une règle de durée. Ils ont le droit à 30 minutes sur la tablette le soir, ou ils ont le droit à une heure. Ça dépend des familles, mais il y a des règles fixées. Et ils sont responsables de la préparation matérielle, c'est-à-dire qu'ils doivent arriver le matin avec une tablette chargée. Ça, c'est un de leurs soucis du soir. Pensez à recharger leur tablette pour arriver prêt et disponible en classe. Finalement, quel bilan ? Il y a des usages à la maison concertée, ça a rapproché les familles et les enseignants de tout ça. Tout ça, ça rapproche les familles et les enseignants. Parce qu'on parle de l'école, on parle de ce qu'on y fait. C'est pour ça que je voulais mettre le terme pédagogique. Évidemment, les enfants jouent sur la tablette, ils m'ont montré. Alors, il y a des jeux éducatifs, des jeux non éducatifs. Le maître a totalement le contrôle sur les applications qui sont installées sur ces tablettes-là, il les reprend régulièrement. Évidemment, il y a beaucoup de plaisir d'apprendre derrière tout ça. Évidemment, il y a une continuité matérielle. Et alors, je vous parlais de continuité spatiale. Dans l'ENT, on est chez soi, on est à l'école. On est à l'école chez soi. Et bien, avec la tablette, là, on n'a plus de soucis pour être à l'école chez soi quand on veut. Évidemment, il y a une charte d'usage qui est nécessaire. Elle est même obligatoire. Il y a des règles à se donner. Bon, ben voilà, c'est de l'éducation. Ça peut faire peur, ça fait peur à certains enseignants. Et ce que je voudrais vous dire pour terminer, c'est que cette petite expérimentation dans cette école rurale, eh bien ce secteur de collège, avec 11 écoles, les élus viennent tous d'acheter une tablette individuelle aux enfants, à tous les enfants de cycle 3. Là, ils sont en ce moment en train d'être dotés. Parce que cette expérimentation qui avait été lancée par la DGESCO, les élus, lorsqu'ils l'ont vue, ils se sont tous dit que c'était super. Donc, ça aussi, ça fait partie de ce qui laisse à penser que ça convient aux élèves, parce que si tout le monde est pour la généralisation sur ce secteur-là, c'est que c'est efficace. Voilà.